Bonjour Gilles Legendre.
Bonjour Éric Delvaux.
Député La République En Marche. 30 000 manifestants hier, selon la police. 5 fois plus selon les insoumis, contre la gouvernance Macron en général et la réforme, les ordonnances en particulier. Est-ce que la majorité que vous représentez ce matin a entendu le message ?
Non, il n'y avait pas de message à entendre. Nous avons assisté à une clarification politique. La course est ouverte entre la France Insoumise et le Front National. Jean-Luc Mélenchon essaye de profiter de la crise au Front National pour faire gonfler sa pelote. Et en mettant dans le même sac, d'un côté les nazis, de l'autre côté Alain Juppé ou le président de la République ou nous-mêmes, il singe la famille Le Pen, d'ailleurs plus le père que la fille. Plus globalement, tout ce que j'ai lu, vu et entendu hier me fait penser à un très beau texte de Victor Hugo, commençant par cette question. Quel est le républicain ? De celui qui veut faire aimer la République ou de celui qui veut la faire haïr. Nous, République En Marche, autour du chef de l'État, nous voulons faire aimer la République. Et pour cela, renouer avec une France forte qui soit capable de protéger ses populations les plus vulnérables et donner un avenir à sa jeunesse. En face, Jean-Luc Mélenchon surfe sur les difficultés des Français, monte les Français les uns contre les autres et attise la haine.
Vous faites référence aux propos de Jean-Luc Mélenchon lorsqu'il a dit hier que c'est la rue qui a abattu les rois, c'est la rue, a-t-il dit, qui a abattu les nazis. Ce matin, les insoumis répondent que Jean-Luc Mélenchon a juste énuméré des faits historiques quand la rue a influencé le cours de l'histoire en réponse aux propos d'Emmanuel Macron, pour qui la démocratie ne se fait pas dans la rue. Comment est-ce que vous entendez cette justification des insoumis ?
Il y a entre nous une opposition radicale, irréductible. Nous affrontons une réalité qui est que une proportion croissante de nos concitoyens vivent dans des conditions devenues très difficiles, voire pour certains infernales. Et en raison d'une classe politique qui a lourdement failli, classe politique dont Jean-Luc Mélenchon était l'un des convives avec un rond de serviette permanent, depuis des lustres.
C'est-à-dire, si on fait le bilan des dernières années, Emmanuel Macron aussi était en charge au gouvernement.
Mais aujourd'hui, Emmanuel Macron et nous avons un mandat pour faire changer les choses. En face de ça, Jean-Luc Mélenchon n'est pas dans la réalité. Il cultive un rêve de plus en plus délirant, où la démagogie le dispute à la mégalomanie, où les humeurs l'emportent sur la raison. Il veut faire descendre les jeunes dans la rue. Nous voulons leur donner un job. Parce que ces jeunes, c'est eux qui vont devoir relever les défis technologiques, les défis écologiques, les défis technologiques, mais à condition que nous leur en donnons les moyens, nous, la génération des aînés, en relançant la machine économique et en leur donnant des compétences qui leur permettront de relever ces défis.
Ce que vous dites ce matin, Gilles Legendre, pour La République En Marche, c'est que vous avez bien entendu le message tout de même. Vous disiez qu'il n'y avait pas de message. Vous avez entendu ce message de Jean-Luc Mélenchon quand il dit que la bataille ne fait que commencer. Vous prenez cette menace au sérieux ?
Il est dans le théâtre, nous sommes dans l'action. Franchement, ce n'est pas de cette manière-là que les Français aspirent à être gouvernés. Le mandat qu'ils nous ont donné nous oblige, certainement, nous oblige aussi à écouter les mécontentements, les oppositions, à respecter évidemment les manifestants, mais nous devons agir. Nous osons, nous proposons, jamais Jean-Luc Mélenchon ne propose.
Les mécontentements dont vous venez de parler, ils sont politiques avec Jean-Luc Mélenchon, ils sont aussi syndicaux. Jean-Luc Mélenchon a dit qu'il se rangeait derrière la contestation syndicale, maintenant à eux de prendre le relais. Est-ce que dans le gouvernement et chez La République En Marche que vous représentez ce matin, Gilles Legendre, est-ce que ce n'est pas plus la mobilisation syndicale que vous craignez, plus que la mobilisation politique ?
Alors ça, c'est d'une nature très différente. Nous sommes, comme je l'ai dit, dans une opposition radicale vis-à-vis de la France des Insoumis. En revanche, vis-à-vis des forces syndicales, nous ne sommes pas dans un combat. Nous ne sommes pas un combat depuis le début. Nous avons eu besoin des forces syndicales pour engager une concertation à laquelle ils se sont prêtés loyalement, honnêtement, avec le sens des responsabilités.
Parce qu'il n'y a pas de loyauté et d'honnêteté dans la démarche de Jean-Luc Mélenchon ?
Je pense que j'en ai dit suffisamment avec Jean-Luc Mélenchon pour pouvoir m'intéresser plus maintenant aux forces syndicales. Les forces syndicales ont le droit d'être opposées à certaines des dispositions que nous prenons. Nous les avons prises dans un cadre légal. Il y a eu un débat démocratique suivant une concertation extraordinairement riche grâce à la participation des partenaires sociaux. Nous avons eu un mandat du pays pour prendre ces ordonnances qui faisaient partie du programme. Il n'y a rien dans ces ordonnances qui n'ait été mis sur la table avant l'élection. Elles doivent donc s'appliquer.
Oui, cela dit, plusieurs syndicats vous disent que le compte n'y est toujours pas. Hein. La CFDT, la CFTC, l'UNSA également vont être très attentifs désormais au décret d'application. Hein. C'est la deuxième couche, si j'ose dire, qui arrive. Par exemple, la fusion des comités d'entreprise et des CHSCT, hein, les comités hygiène-sécurité. Pas question pour les syndicats d'y perdre des heures de délégation. Vous allez être attentifs à ça?
Nous allons être parfaitement attentifs parce que le dialogue avec les forces syndicales, même quand elles s'opposent à nous, nous allons mettre toute notre énergie pour la poursuivre. Je vous rappelle que les ordonnances sont un premier acte, une première étape décisive, mais qu'elle va être suivie de deux autres étapes encore plus importantes, notamment tout ce que nous allons faire au printemps sur l'assurance chômage d'une part, sur la formation et l'apprentissage de l'autre. Tout ça relève d'un dispositif complet qui vise à dynamiser l'emploi, notamment l'emploi dans les petites entreprises et dans les très petites entreprises, et faire en sorte que, enfin, ces entreprises puissent se développer. Vous savez que c'est la grande faiblesse française. Il faut absolument lutter contre cette faiblesse et cette fragilité.
Sauf que vous avez entendu les critiques. Dans ce texte, on voit bien la flexibilité dans le travail. En revanche, les opposants ne voient pas toujours la sécurité. Vous la situez où, cette sécurité dans le travail avec cette réforme?
Alors, aujourd'hui, la principale précarité, c'est le chômage. Et la principale sécurité, c'est redonner de l'emploi à ceux qui n'en ont pas. Pour ça, on sait, c'est démontré, qu'il faut que les entreprises puissent avoir plus de souplesse dans la manière de gérer leurs effectifs.
Mais quand vous dites parfois c'est démontré, baisse, ça existe où cette démonstration? En quoi la fragilisation des contrats de travail va faire baisser le chômage?
On ne fragilise pas le contrat de travail, absolument pas. On fait en sorte que les chefs d'entreprise aient une sécurité quand ils gèrent leurs effectifs. Tous les patrons de PME et de TPE vous disent que ce qui freine leur embauche, c'est des règles trop rigides. À partir du moment où les règles s'assoupliront, évidemment, l'emploi repartira. Cela prendra du temps. Mais la vraie sécurité, et ça je vous l'accorde, la vraie sécurité, c'est la sécurité des compétences et des formations. Aujourd'hui, une grande partie du chômage s'explique parce qu'il y a une inadéquation entre les besoins des entreprises, besoins qui sont en plein bouleversement compte tenu des transformations de l'économie, et les qualifications des personnes qui sont au travail et encore plus des personnes qui sont au chômage et qui n'arrivent pas à rentrer sur le marché du travail.
Ce texte s'est aussi heurté à la méthode, le coup d'état social hein, que vous reprochent notamment les insoumis, c'est d'avoir contourné le Parlement et d'éviter les débats parlementaires.
Écoutez, laissez-moi sourire. On a contourné le Parlement, on a eu 10 jours de session pendant lesquels les insoumis n'ont cessé de prendre la parole. Et ils ont eu raison de le faire. Et ils avaient le droit de le faire. L'opposition politique, elle doit se déclarer au Parlement. Et le jeu démocratique a parfaitement fonctionné. Ce qui est problématique...
Le seul vote des parlementaires, c'était pour adopter la loi d'habilitation. C'est de pure forme et pas
non,
de fond.
Non. D'une loi d'habilitation qui était tellement précise que dans les ordonnances, il n'y a aucun point qui n'ait été évoqué pendant ce débat parlementaire.
Gilles Legendre, on va reprendre cette interview après la revue de presse dans un instant. Ce sera dans quelques minutes. Et avec les questions des auditeurs, vous pouvez appeler dès maintenant les auditeurs au 01 45 24 7000 avec vos questions à Gilles Legendre, le député La République En Marche. À tout de suite.